Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : en vérité, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. En vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je reprenais la feuille de chant du début de la messe, parce qu'il y a quelque chose de très important qui nous est redit, c'est que nous sommes le corps du Christ, nous sommes un seul corps, un seul peuple, et le Christ est notre tête, et nous sommes membres de ce corps, chacun. Et nous avons à être actifs au cœur de ce corps, à déployer la grâce qui nous a été donnée à chacun personnellement, et à nous comporter en membre actif de ce corps. Lorsque quelqu'un a un problème de santé grave, comme un AVC par exemple, il peut expérimenter le fait d'avoir des membres paralysés et de ne plus pouvoir s'en servir. Je visitais ainsi récemment à l'hôpital de l'Arche quelqu'un qui me prenait sa main gauche, puis qui allait se faire tomber en me disant, voyez, le bras ne fonctionne plus, il avait eu un AVC et manifestement la mobilité ne revenait plus dans son côté gauche. Et il me semble que dans l'Église, il y a des problèmes qui sont un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'au fond, il peut y avoir des membres qui sont des membres inertes, soit qu'ils soient carrément absents et qu'ils ne fassent que demander des services ponctuels de temps en temps. Et c'est étonnant quelquefois que le service ne soit pas forcément très bien fait, mais eux ne lèvent jamais le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Soit qu'ils participent à la messe le dimanche, mais que au fond, jamais, ils ne rendront un service dans la communauté chrétienne. Et ça, c'est une autre forme d'inertie, de paralysie, qui freine considérablement la mission de l'Église. Et vous voyez bien que, par le baptême et la confirmation, chacun de nous, nous avons reçu vraiment l'énergie, j'allais dire, pour pouvoir être actif et participer à la vie du corps et participer à la croissance de l'Église. Et si aujourd'hui l'Église nous propose de prier pour les vocations et de nous rappeler que au cœur de ce corps, certains sont plus particulièrement appelés à un ministère, qu'il s'agisse des diacres, des prêtres, des évêques, qu'il s'agisse aussi de vocations à la vie consacrée, de vocations aussi au mariage sacramentel, au sacrement de mariage, vraiment comme témoignage de l'alliance du Christ et de son Église. Si l'Église nous invite à prier pour ses vocations, c'est en pensant vraiment en termes de corps du Christ, en termes de communauté chrétienne. Et il me semble que dans l'avenir, nous serons confrontés, suite au délitement de la société, excusez-moi, et aussi à la façon dont l'Église se replie quelquefois sur des petits nombres par manque de participation des membres du corps, nous serons confrontés dans l'avenir à une nouvelle forme de communauté chrétienne qui nécessitera vraiment que chaque personne qui y participe soit membre actif à part entière et vraiment est au fond de son cœur le désir de se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite en ce monde? Qu'est-ce que tu me demandes de vivre? Pas seulement de faire, parce que le mot faire est un peu piégé, il ne s'agit pas de tomber dans l'activisme ou l'hyperactivisme, et en évaluant la qualité d'une personne à son efficacité dans l'action, vous sentez bien, la fécondité est un autre ordre que l'activité. Mais Seigneur, quelle est la fécondité que tu me demandes dans ton corps, dans ton Église? Quelle est la fécondité à laquelle tu m'appelles? Il ne suffit pas de prier pour avoir des prêtres. Donnez-nous des prêtres, donnez-nous des saints prêtres de préférence. Il ne s'agit pas de prier uniquement pour avoir des prêtres, il s'agit vraiment de nous engager les uns et les autres à être des membres actifs de l'Église, soucieux de la mission et de faciliter la possibilité d'une réponse. Il y a beaucoup d'évêques ce week-end qui montent au créneau pour expliquer qu'est-ce que c'est que les vocations sacerdotales, etc. Et j'entendais à la radio sur RCF ou sur Radio Notre-Dame un évêque dire, au fond, la crise d'aujourd'hui, c'est moins une crise de l'appel qu'une crise de la réponse. C'est vrai que Dieu continue à appeler des jeunes à s'engager dans le ministère sacerdotal. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de soutien dans la communauté elle-même, mais surtout dans leur propre famille, pour répondre à cet appel qui, quelquefois, se fait jour dans leur cœur. Et c'est vraiment toute la question qui nous est posée. Sommes-nous suffisamment engagés pour permettre à ceux qui ont un appel plus particulier de sentir un véritable support et un véritable désir au cœur de nous-mêmes pour qu'ils puissent répondre? Je me souviens, il y a peut-être 30 ans, avoir visité une famille qui avait mis sur sa cheminée une grande photo de l'ensemble de la famille. Et c'était une famille, je crois, où il y avait au moins 4 à 6 garçons. Et donc, ils avaient fait un encadrement avec la photo des parents et puis les 4 ou 6 garçons tout autour. Et alors, c'était vers les années 80, 90, au moment où on commençait à mettre en place les présidents laïcs de funérailles. Et alors les gens se plaignaient beaucoup. Comment il n'y a plus le prêtre aux sépultures? Mais c'est honteux, mais c'est scandaleux. Et puis les moines de Solesmes à côté, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font rien du tout dans leur... Et puis etc. Et ça se plaignait beaucoup. Et les laïcs d'ailleurs qui s'engageaient avaient fort à faire pour éteindre certains incendies. Et alors je vois cette photo sur les... Et je dis, mais... Vous vous plaignez, mais avez-vous proposé à l'un de vos garçons de devenir prêtre? Évidemment, il y a eu un silence impressionnant. Et voilà, tout était dit quelque part. On se plaint la bouche pleine, mais on ne lève pas le petit doigt pour vraiment proposer cette vocation qui est belle, qui est difficile, mais qui est belle et qui est importante dans la communauté chrétienne, qui n'est qu'une des vocations au cœur de la communauté chrétienne, et qui n'est à penser qu'en termes de communauté. Est-ce que notre communauté est à plante? Est-ce que nos familles sont à plante pour que, si le Seigneur donne un appel, il puisse y avoir tous les soutiens pour une réponse? Est-ce que nous participons à la vie matérielle des prêtres? Est-ce que nous avons le souci d'entourer les prêtres? Etc., etc. Il y a tout de même des tas de questions à se poser si l'on veut qu'il y ait une fécondité. Je ne sais pas à quand remonte dans la paroisse Saint-Aubin la date où il y a eu un prêtre originaire de la paroisse qui a été ordonné prêtre. Encore une question qu'on peut se poser, tiens, question qui fâche. Il y a certaines paroisses où quelquefois ils faisaient un cadre et puis ils mettaient dedans les noms des hommes de la paroisse qui avaient été ordonnés prêtres. Et voilà. Et on peut se poser la question aussi. Bon, vous voyez, aujourd'hui c'est un jour, excusez-moi, où peut-être je secoue un petit peu les susceptibilités, mais il me semble que nous ronronnons trop sur nos lauriers. Et que, au fond, les personnes qui sont engagées au service de la communauté chrétienne, quelquefois elles-mêmes, se sentent bien seules parce que très peu acceptent, trop peu acceptent de répondre, et que beaucoup autour ne se sentent pas vraiment concernés, sauf par vraiment absolue nécessité. Je pense que lorsque nous disons aux parents des enfants qui inscrivent leurs enfants au catéchisme, qu'en première et deuxième année de catéchisme, c'est eux-mêmes qui feront le catéchisme parce qu'il n'y a personne pour le faire. Eh bien, les parents sont surpris, et puis il y a un moment où ils décident de franchir le pas, certains, et de, voilà, se rendre responsables du processus d'évangélisation et de formation de leurs propres enfants. Mais il faut aller encore plus loin et participer à la vie de la communauté chrétienne à travers la célébration dominicale où nous recevons la parole de Dieu et à travers la communion eucharistique, la force pour pouvoir assumer cette évangélisation. On peut rêver quand on entend dans la première lecture l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Saint Luc, nous dire que le jour de la Pentecôte, à la suite de la prédication de Pierre, il y a eu 3 000 baptêmes, 3 000 conversions. Alors, on se dit, enfin, ils ont dû se tromper sur les chiffres, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le texte. Et le Saint-Esprit avait soufflé fort. Et c'est peut-être ça aussi qu'il nous faut désirer, c'est que le Saint-Esprit souffle fort pour renouveler nos vies chrétiennes, que nous soyons des chrétiens ardents, des chrétiens priants, des chrétiens incandescents, des chrétiens qui n'hésitent pas à payer le prix d'une foi vive et qui ne s'endorment pas sur leur laurier. Il n'y a pas dans l'Église de chrétiens honoraires. Ça n'existe pas. Nous sommes tous appelés à être vraiment des chrétiens vivants, engendrés par le Christ ressuscité que nous célébrons en ce temps pascal.